Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie d'une série que nous avons commencée dimanche dernier sur la famille. Et cette série, nous la tirons de l'Épître aux Éphésiens à partir du chapitre 5. Donc, on suit cette épître depuis des mois et on est arrivé dans toute cette section sur la famille. Et donc, aujourd'hui, nous voulons examiner le rôle de la femme. Et la semaine dernière, je voulais quand même le dire tout de suite, nous examinerons le rôle du mari. Donc, messieurs, vous revenez dimanche prochain. Sinon, ça risque d'être la guerre chez vous, d'accord? Mais aujourd'hui, nous prenons dans l'ordre que la Bible nous le donne, c'est le rôle de la femme. Et je vais lire Éphésiens 5, 22 à 24, d'accord? Éphésiens 5, versets 22 à 24. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors nous vivons, comme vous le savez, dans une société où il y a beaucoup de confusion par rapport au rôle de la femme. Et ce matin, je ne vais pas m'attarder sur ce que dit notre société ou notre culture sur le rôle de la femme, parce que je pense qu'on le connaît assez bien. Mais j'aimerais tout simplement examiner ce que dit la parole de Dieu, la Bible, à ce sujet. Et je pense que c'est un endroit excellent pour découvrir quel est le rôle de la femme. Pourquoi ? Premièrement, parce que la Bible est la parole de Dieu. Mais deuxièmement, parce que c'est Dieu qui a eu l'idée de créer l'homme et la femme. Et il n'y a personne d'autre qui connaît mieux quel est le plan pour l'homme et la femme que le créateur de l'homme et la femme. C'est plutôt logique. Et Dieu ne nous a pas laissé dans l'ombre par rapport à ce sujet. Sa parole ne pourrait être plus claire sur quel est le rôle de la femme, mais aussi du mari. Et donc, nous allons voir ces deux, un après l'autre. Alors, quel est donc le rôle de la femme au sein d'une famille? Eh bien, ce matin, nous allons découvrir le rôle de la femme en examinant, j'espère qu'on va pouvoir tout faire, mais il y a beaucoup de matériel, mais pour les maris aussi, il y en a encore plus. J'aimerais vous montrer un petit truc quand même intéressant. Pour les femmes, il y a trois versets. Pour les hommes, ça va du verset 25 jusqu'au verset 33. Donc il y a beaucoup plus pour les hommes. Nous sommes plus compliqués que les femmes, messieurs, d'accord? Je le dis comme ça en passant. Mais aujourd'hui, nous allons examiner six passages, d'accord? Donc on va vraiment y aller, d'accord? Six passages, on va les prendre un après l'autre. Donc pour commencer, allons au livre de la Genèse. Au livre de la Genèse. Genèse 1, 27. Et je commence avec le livre de la Genèse pour la simple raison que c'est là que nous avons le récit de la création de la femme. Donc c'est un endroit logique pour commencer. Alors, la première chose que j'aimerais qu'on voit ici, c'est que l'homme, que Dieu a créé l'homme et la femme égaux. Genèse 1, 27. Nous lisons, car Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc il crée les deux à son image, qui veut dire qu'ils sont imprégnés de l'image de Dieu, ils ont la personnalité, l'intelligence, l'émotion, la volonté, ils peuvent les deux réfléchir, sentir, choisir, ce sont deux êtres égaux en ce qui concerne leur valeur et leur essence vis-à-vis de Dieu. Et au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et on voit aussi qu'ils sont co-gérants de la terre. Ils doivent les deux être féconds et multipliés, remplir la terre, l'assujettir. Bref, ils sont pareils dans ce rôle-là. Deuxièmement, nous voyons que Dieu crée l'homme et la femme différents. Différents aussi. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc Dieu crée l'homme en premier. C'est l'ordre de Dieu. Et au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, Dieu crée l'homme avant Ève et donne à Ève, lorsqu'il crée Ève de l'homme, d'Adam, un rôle précis. Premièrement, d'être son compagnon, Donc, elle n'en est plus seule. Deuxièmement, d'être son aide. Son rôle est bien défini. Elle est là, elle va aider l'homme, aider son mari. Et verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc son rôle est d'être un compagnon à l'homme, d'être une aide à l'homme et d'être une procréatrice dans le sens qu'elle est seule à pouvoir mettre un enfant au monde. Et ça j'ai souvent dit en rigolant, mais c'est vrai. Moi, je suis pas globalement perturbé dans ma vie, comme quoi je ne peux pas mettre des enfants au monde. C'est pas un truc, je perds pas de sommeil là-dessus. C'est-à-dire, je comprends que les rôles sont très différents, puis voilà. Moi, je suis heureux avec ça. C'est comme ça. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire de voir que l'homme et la femme ont des rôles différents. C'est logique. Même la nature le montre. Trois. L'homme et la femme furent mariés dans un état de perfection. Alors ça, c'est quand même génial à y penser. Le mariage d'Adam et Ève furent créés par Dieu avant la chute qui vient dans Genèse chapitre 3, et donc avant l'existence du péché. Imaginez donc ce premier mariage existait sans aucune teinte de péché, pas de malentendu dans ce couple, pas de frustration dans ce couple, pas de dispute dans ce couple, pas même une mauvaise pensée envers son conjoint. C'est quand même incroyable, c'est génial. Jamais même une petite remarque. Non, c'était la joie absolue et totale. Et en plus, ce mariage était vécu dans la lumière de la communion parfaite avec Dieu. Donc c'était presque trois. C'était Adam, Ève et Dieu. Et ils parlaient avec Dieu comme je vous parle maintenant. Quatre. L'homme et la femme étaient parfaitement satisfaits de leur rôle complémentaire avant Genèse 3. Dans le plan de Dieu, l'homme et la femme avaient des rôles complémentaires, précis. L'homme était censé mener son épouse avec amour et équité, de pourvoir à elle, pour qu'elle puisse, elle, s'épanouir dans son rôle. Il ne se posait même pas la question, c'était comme ça. C'était la logique, il n'y avait pas encore le péché. Donc les deux étaient parfaitement satisfaits dans leur complémentarité. Et l'autorité du mari n'était pas du tout teintée par l'autoritarisme. Il était teinté par un amour parfait. Elle suivait avec un amour parfait. C'était bon. 5. La chute a bouleversé l'harmonie dans le couple. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu l'avait fait, et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Satan, qui se déguise en serpent, rentre dans ce jardin, et il corrompt la situation. Et de manière volontaire, la femme, l'homme pêche. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, Dieu avait interdit qu'on en mange, qu'il était agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ce qui s'est passé, c'est que le serpent a contourné le leadership naturel de l'homme et s'est acharné sur la femme qui par dessein était celle qui devait suivre. Et le serpent lui a fait des belles promesses. Elle l'a écouté, a mangé du fruit interdit, et puis a persuadé son mari de faire de même. Et ça, mes amis, c'était le commencement de l'attaque sur le leadership de l'homme au sein d'un mariage. Ève a péché en cédant au tentateur. Elle a agi indépendamment de son mari, sans le consulter au préalable. Et ils ont les deux ainsi péché. Et ils ont ainsi amener le monde dans une ruine que nous vivons encore aujourd'hui. 6. Une malédiction a teinté chaque mariage depuis. Ça, c'était le moment de la chute. Mais Dieu, et vous vous rappelez, a ensuite maudit l'homme et la femme pour avoir péché contre lui. L'homme a été maudit par la pénibilité de son travail et la femme a été maudite dans deux choses. Premièrement, dans la souffrance de ses grossesses, et regardez Genèse 3:16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Là, il y a une phrase très intéressante. Premièrement, elle va avoir des douleurs lorsqu'elle met un enfant au monde. Ça, c'est une des conséquences du péché. Mais regardez ce qu'il dit. « Et il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alors que veut dire cette petite phrase? Alors certains disent, ah ben c'est simple, c'est que Dieu a donné depuis des super désirs sexuels à la femme. Mais ça ne peut pas être le cas. C'est impossible. Pourquoi ? Ben parce que ce n'est pas une malédiction, la sexualité. C'est une bénédiction. Je ne sais pas comment Dieu peut maudire un couple et leur dire « Écoutez, vous aurez plus de relations sexuelles. » C'est ridicule. Ce n'est pas une malédiction, ça. Non. Le mot « désir » veut en fait dire « contrôler ». On le retrouve dans Genèse 4, verset 7. Et en fait, la malédiction, c'est ça. Tu vas vouloir dorénavant contrôler ton mari, tes désirs vont se porter sur lui, tu vas vouloir le contrôler, mais lui dominera sur toi. Lui dira « Ah non ma petite !» Et c'est lui qui va dominer de force. Et cette malédiction, mes amis, prédit les conflits maritaux qui viennent du fait que nous vivons dans un monde déchu et que chaque conjoint dorénavant veut dominer sur l'autre. Chaque conjoint va avoir raison, bien sûr, sauf dans votre couple, je sais, d'accord. Mais nous voulons avoir raison. Avant la chute, comme je l'ai dit, l'homme et la femme étaient satisfaits, dorénavant, ils ne sont plus satisfaits. Ils ne se respectent plus dans l'amour, ils ne veulent plus être soumis mutuellement, elle n'aime pas son rôle et lui veut forcer ce rôle. Et les conséquences d'un tel inversement de rôle se voient tout autour de nous. Les mariages, mes amis, éclatent autour de nous, mais de manière fulgurante. C'est inquiétant. Levez la main si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, famille ou amis, qui ont déjà divorcé. Levez la main. Tout le monde. Tout le monde. Les mariages éclatent autour de nous, et de manière de plus en plus rapide. Alors, quelle est l'espérance pour le mariage? Eh bien, c'est de revenir au plan de Dieu. Et l'espérance pour le mariage vient du fait que Jésus-Christ, à cause de son sacrifice pour nous, a permis que notre péché soit pardonné. Pierre a dit « Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Acte 10, 4. Et mes amis, ça change tout. Dieu nous pardonne. Il nous donne une nouvelle nature, créée dans la vérité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est maintenant sans péché, ça. Vous pouvez demander à mon épouse, d'accord? Je suis vraiment pas sans péché, d'accord? Mais nous avons aujourd'hui la capacité de commencer, pas par pas, à mettre en place le plan de Dieu pour notre vie, parce qu'il nous donne la puissance et la liberté de le faire. Moi, je vois ça comme une catapulte. Quelque part, devenir à Christ, c'est une sorte de catapulte spirituelle qui nous recatapulte dans le jardin d'Éden. Et là, on peut commencer à retrouver le plan original de Dieu. C'est pour ça que les mariages chrétiens devraient être les plus radicaux autour de nous. Nous devrions être différents des autres, mes amis. Radicalement différents. Alors, quel est ce rôle clair, précis de l'épouse, la semaine prochaine c'est les maris, de l'épouse selon le plan de Dieu. Et nous qui sommes chrétiens remplis du Saint-Esprit, je pense que nous allons dire amen à ce que Dieu dit. Alors, le deuxième texte. Allons-y, Éphésiens 5. Éphésiens 5. Alors, s'il y a un verset dans toute la Bible qui fait grincer les dents de nos jours, c'est bien celui-ci, d'accord? Je le lis, verset 22. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Alors, il faut déjà comprendre le mot « soumettre ». En fait, dans l'original, il n'est même pas dans ce verset, il est porté du verset précédent. C'est « femme », alors il dit au verset 21, « vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, femme à son mari ». Mais le concept est là, bien sûr. Et le mot « soumettre », c'est le mot « upotasso » en grec. « Upo » veut dire « dessous »,« tasso » arranger, mettre quelque chose en ligne, quelque chose en ordre. C'est un terme militaire à la base qui décrivait un rang inférieur à un autre. Alors, pas en nature, pas en essence, mais dans l'ordre. Dans l'ordre, un soldat est d'un rang inférieur à un officier, mais il n'est pas inférieur en nature. Et ça, on l'a vu la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir sur le détail. Mais on a vu que c'est un ordre essentiel pour la vie. Même dans la Trinité, il y a Dieu le Père et Dieu le Fils, et nous avons vu que bien qu'ils sont égaux en nature, le Fils est soumis au Père. Nous avons vu au niveau de l'État, les gouverneurs et les citoyens sont égaux en nature, mais les citoyens doivent se soumettre au gouverneur. Dans l'Église, les anciens et les membres sont égaux, mais les membres doivent se soumettre aux anciens. Au travail, les maîtres et les serviteurs sont de la même nature, mais les serviteurs doivent se soumettre aux maîtres. Dans les familles, les parents et les enfants sont de la même nature, mais les enfants doivent se soumettre et obéir aux parents. Eh bien, dans le couple, c'est exactement pareil. Le mari et la femme sont de la même nature, mais dans l'ordre de Dieu, un doit mener, un doit se soumettre. Et la femme est appelée à se soumettre au leadership d'amour, nous verrons la semaine prochaine, de son mari. Alors, nous apprenons plusieurs choses sur cette soumission ici. Premièrement, c'est une soumission générale. Regardez, il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Toutes les femmes devraient être soumises à leur mari. Ceci s'applique à tout le monde et c'est ce que j'aime avec notre église. Je crois qu'on avait calculé 29 nationalités. Ben, quelle que soit votre culture, d'où vous êtes, votre couleur, c'est égal. La parole de Dieu s'applique à vous. Et à moi, de la même manière. C'est transculturel, transmondial, pour être bien grand, d'accord? Donc, toutes les femmes devraient être soumises à leur mari. Deux, une soumission digne. Cette soumission, j'ai déjà dit, n'implique en rien une moindre dignité. Elle n'est pas moindre que son mari. C'est un rôle différent, on l'a déjà dit. Trois, c'est une soumission équilibrée. Il dit ici, sois soumise, ce n'est pas de l'esclavage. Soyons bien clairs. La femme n'est pas un paillasson. Et je crois que beaucoup d'hommes, malheureusement, ont pris ce verset et ont tabassé leur femme avec ce verset. Sois soumise, va me chercher ceci, va me chercher cela. C'est pas ça, la soumission. Écoutez, c'est une relation d'amour. Il y a une discussion, il y a toute une communication qui se met en place. Mais parfois, c'est vrai, parfois, quelqu'un est appelé à prendre une décision finale. Et dans ces instants où quelqu'un doit prendre une décision finale, eh bien, le mari, avec amour et avec humilité, avec gentillesse, prend cette décision finale. Et la femme se soumet à son mari. Et ça, c'est génial. En se disant, chérie, je me soumets à ta décision, sachant que finalement tu es redevable à Dieu, toi, pour ta décision. Quelque part, c'est beaucoup mieux pour une épouse de pouvoir dire, écoute, alors je me soumets, mais c'est toi qui vas rendre des comptes à Dieu. Vas-y. Mais c'est pas faux, quelque part. Donc, messieurs, le poids est sur nous. Revenez dimanche. D'accord? Ce n'est pas le même mot ici, femme, qu'elle soit soumise à son mari, que pour les enfants. Enfants, obéissez à vos parents, 6-1, c'est différent. Là, l'enfant, il a rien à dire. Tac! Il obéit. Sinon, coup. Mais ça, on y reviendra aussi, d'accord? C'est pas comme ça, messieurs, que vous traitez votre femme, d'accord? Sinon, elle va partir très loin de chez vous, ok? 4, c'est une soumission personnelle. Elle se soumet à son mari. Elle se soumet pas à tous les hommes. Elle se soumet à un homme, son mari. C'est une femme, en fait, dévouée à un homme, son homme. Ah, c'est beau, non? Ça implique une profonde réciprocité, un amour profond. Elle chérit son homme, elle aime son homme, elle aime se donner à lui dans une attitude de soumission et d'amour. Elle veut l'honorer, elle veut le faire briller, il n'y a aucune infériorité ici. 5, c'est une soumission joyeuse. Regardez, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Je vous pose une question. Comment est-ce que vous vous soumettez au Seigneur? C'est dur. Mais non. Vous êtes heureux de vous soumettre au Seigneur, on le fait avec joie. Ben, c'est pareil. Une femme se soumet avec joie à son mari. 6, c'est une soumission volontaire. Il est dit au verset 23, car le mari est le chef de la femme. Alors de nouveau, on a des a priori sur ces termes, mais c'est le mot kephalé, simplement qu'il parle d'une tête ou une autorité. Ce n'est pas un autoritarisme, ce n'est pas un dictateur, non. Il est chef, c'est lui qui mène. Elle connaît l'ordre de Dieu, elle sait que c'est un ordre bon, juste et équitable. Et donc, en fait, et ça, écoutez, là je parle mon cœur. Vous savez ce que je crois vraiment dans le fin fond de mon cœur? Qu'une femme aspire qu'à ça. Elle aimerait trouver son prince charmant, vraiment, et se donner à lui et le suivre et l'honorer. Je pense que ça, c'est ce que Dieu a mis dans le fin fond d'une femme. Elle veut un homme de Dieu qui la mène, avec amour, équité, gentillesse, tact, diplomatie. Voilà ce qu'elle veut. 7, c'est une soumission éducative. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est intéressant. Lorsqu'une femme se soumet ainsi à son mari, elle devient une image puissante pour le monde quant à l'Église. C'est comme l'Église. De même que l'Église est soumise à Christ. Le monde voit un mariage équilibré, où l'homme mène avec amour, où la femme suit avec amour, et le monde voit un portrait visible de l'Église. L'Église devrait suivre et obéir et se soumettre à Jésus-Christ qui s'est donné pour elle, sans aucune complication, sans aucune infériorité, mais avec joie et dignité. Voilà l'image. C'est une soumission éducative et finalement une soumission totale. Verset 24, « Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Waouh ! Il n'y a pas de réaction, c'est super quand même. Il y a une exception. Une exception. Lorsque le mari exige de sa femme qu'elle pêche. Là non. Là non. Qu'elle est contraire à la parole de Dieu. Non. Là, elle aurait le droit, avec bien sûr de nouveaux tacts, de ne pas se soumettre à son mari. C'est comme nous l'avons vu, enfin, nous l'avons déjà vu dans Actes 5, 29, lorsqu'on ordonne aux disciples de ne pas évangéliser. Dans Actes 5, 29, ils répondent, Pierre, un des apôtres, répondit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais je pense qu'on peut facilement utiliser des soi-disant versets bibliques pour justifier beaucoup de choses. Moi, je pense que pour qu'un homme demande à sa femme de pécher de manière claire, c'est, je pense, plutôt rare. Je pense que c'est plutôt rare. Et je pense que le résumé de ce texte se trouve dans Éphésiens 5, 33. « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Voilà, voilà, c'est tout ce que le Seigneur demande, qu'une femme respecte son mari. Bien sûr, nous l'avons vu la semaine dernière, la clé pour qu'une femme puisse même en arriver à vouloir obéir ces textes qui, de nos jours, nous paraissent assez radicaux, eh bien, il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Passons au troisième texte. 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Certains diront, oui, mais John, alors, c'est beau tout ça. Mais tu connais pas mon mari. Ah, si tu connaissais mon mari. Tu sais, vraiment, il est... C'est pas exactement Jésus-Christ, quoi, tu vois. Il ne me mène pas toujours avec équité et amour. Des fois, il est dur avec moi. Et si tu savais, bon, il marche pas avec le Seigneur, ou peut-être qu'il n'est même pas chrétien. John, si seulement tu savais! Alors, ce que je fais quand on me dit ça, parce qu'on me le dit de temps en temps, je dis, non, peut-être je connais mal votre mari, mais je connais la parole de Dieu. Allons à 1 Pierre 3. 1 Pierre 3 parle de cette hypothèse. Regardez. Verset 1, femme. « Soyez de même soumise à votre mari. » Même mot. Donc on voit que c'est répété, le concept. « Afin que si quelques-uns, parlant du mari, n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Ah, alors, écoutez très bien ce qu'il est en train de dire ici, Pierre. Premièrement, le même concept, « Femme, soyez soumise à votre mari, respectez-le. » « Afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, » alors voilà. Certaines femmes pensent que puisque leur mari n'est pas l'homme de Dieu qu'elles souhaitent avoir, que cela leur donne le droit de le mépriser, de le contrarier, de ne pas se soumettre à son leadership, voire le menacer et même le quitter. Ces femmes ont l'impression que si elles se soumettent à leur mari, surtout ceux qui n'obéissent pas au Seigneur, que cela va être pire pour elles. John, ça va être tellement difficile. Et elles se disent quelque part que leur mari n'est pas digne d'une telle soumission, et surtout s'il n'est pas chrétien. Et cette perspective-là est contraire à la parole de Dieu, mes amis. 1 Pierre 3, 1 est clair. Ce verset dit que si votre mari n'est pas chrétien, s'il n'obéit pas au Seigneur, ou s'il est chrétien, mais il ne marche pas avec le Seigneur, voici ce qu'il faut faire. Vous êtes prêts? Soumettez-vous à lui. Soumettez-vous à lui. Mais pourquoi? Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. « Afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. » Mes amis, l'effet d'une telle soumission, nous dit 1 Pierre 3, 1, c'est que cette attitude gagnera votre mari à Christ dans le temps. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Et notez la prescription, là, tenez-vous bien. « Sans parole par la conduite de leur femme. » Écoutez, une des tendances des femmes dont les maris ne sont pas dans le Seigneur, c'est d'essayer de les gagner par leurs paroles. Par exemple, elles laissent des post-it, hein, bien placés, par exemple, sur la glace de la salle de bain, avec des versets bibliques, ou peut-être avec le rouge à lèvres, hein, c'est un rouge à lèvres sur les miroirs. Ou peut-être elles laissent leur Bible ouverte à des passages clés. Par exemple, par hasard, Marie, aimez votre femme, d'accord? Ou peut-être des livres chrétiens bien ciblés, par exemple, un livre, ce que les femmes veulent que leur mari sache d'elles, sur la table, à café, par hasard. Peut-être, elles écrivent des versets bibliques en dessous de la canette de bière de leur mari. Hein, quand il a, Dieu me touche, d'accord? Ou peut-être elles exigent que leur mari vienne au culte, tu dois venir au culte, mes amis. Ou peut-être, par hasard, elles laissent allumer Radio 74, dimanche à 14h15, sur la série sur la famille. Par hasard, bien sûr, hein? Ou sur leur iPod. Par hasard, il y a un message bien ciblé sur le iPod du mari. Alors, vous savez, ces intentions sont bonnes, mais elles vont à l'encontre de 1 Pierre 3.1. Mesdames, vous voulez gagner votre mari? Alors, arrêtez. C'est drôle à dire. Arrêtez de lui casser les pieds avec les choses de Christ. À moins qu'ils veulent les entendre, attention. Mais arrêtez de lui casser les pieds et gagnez votre mari par votre conduite silencieuse. Ça, c'est radical. Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Chaste, c'est le mot saint. Vous êtes sainte vis-à-vis de votre mari et respectueuse. C'est le mot crainte. Vous le craignez dans le sens de respect. Vous avez un grand respect pour votre mari. Et vous êtes sainte vis-à-vis de lui. Et verset 3. Et énoncez de parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Alors attention, l'écriture n'interdit pas aux femmes de porter des bijoux. Vous pouvez regarder Cantique des Cantiques 1-10 ou Ézéchiel 16, 8 à 13. Il y a beaucoup de versets qui montrent clairement que les femmes peuvent porter du maquillage, des bijoux pour se rendre belles. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais alors si les bijoux sont permis, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Mais déjà on sait que Pierre n'est pas en train de dire qu'il faut virer les cheveux tressés, virer les ornements d'air, parce que dans ce cas-là, il faudrait virer les habits. Et ça, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Donc on sait qu'il n'est pas en train de dire il faut tout arrêter. Non, c'est une question de priorité. Il est en train d'utiliser une figure de rhétorique ici. Il fait une comparaison particulière. Il y a des textes bibliques, par exemple, dans Jean 6, 27, il est dit ceci. Il est dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle ». Alors, est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il ne faut jamais travailler pour la nourriture qui périt? Bien sûr que non, il faut qu'on mange. Même la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 3 à 10, celui qui ne mange, qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, on sait que la Bible est en train de dire qu'il faut travailler, mais en comparaison, il faut travailler plus encore pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et ici, c'est la même chose. Il est en train de dire, n'ayez pas la parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt. Ne vous arrêtez pas là. C'est pas un mal de vous faire belle pour votre mari. Si vous aimez les tresses, faites des tresses. Si vous voulez mettre des bijoux, mettez des bijoux. Si vous voulez vous habiller de manière jolie pour lui, bah faites-la. Mais que ça ne s'arrête pas là. Mais, verset 4, le plus important, c'est la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce qui compte, bien plus que tout le reste, c'est l'intérieur. Il n'est pas en train de dire aux femmes, écoutez, faites tout pour être moche. Non! Bien sûr que non! Parfois, on a l'impression que certaines femmes pensent que c'est honorant d'être simple. Non, je pense qu'il n'y a pas un mal de se faire belle pour son mari, mais cultiver surtout le cœur. Un esprit doux. La douceur, la gentillesse d'esprit. Ça ne veut pas dire que, mais John, j'ai un tempérament assez vif comme femme. C'est très bien, c'est pas un mal. Mais tu peux, vis-à-vis, avec ton tempérament, être doux et gentil vis-à-vis de ton mari. Un esprit paisible, c'est le calme. C'est le calme. Tu sais te maîtriser, calme. J'ai l'impression qu'il y a une génération de femmes aujourd'hui qui veulent être bruyantes, criantes, exiger leurs droits. Elles manifestent contre ceci ou contre cela, elles font grève, elles râlent, elles sont querelleuses. Elles veulent leurs droits. Eh ben, est-ce que c'est leur rôle? Est-ce que c'est leur rôle bibliquement parlant? Moi, je vous garantis que ce genre de femmes, les hommes, ont vraiment de la peine. Par exemple, Proverbe 19, 13. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Je connais pas beaucoup d'hommes qui veulent avoir comme épouse une gouttière sans fin. Tin, 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 tin. Non, je pense pas. Proverbe 21:9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Déjà, ça va être assez difficile de vivre sur l'angle d'un toit. Mais il dit que c'est mieux de vivre sur l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Querelle. Non. Écoute, va sur le toit d'une maison pointue, c'est mieux. C'est des images frappantes quand même, vous trouvez pas? Proverbe 27:15 nous dit « Une gouttière continue dans un jour de pluie est une femme querelleuse, sont choses semblables. » Vous avez déjà essayé de passer la nuit à côté d'une gouttière et toute la nuit on l'entend. Non mais ça, c'est énervant. Vous voyez l'image, d'accord? Par contre, Proverbe 19:14 nous dit « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Mes amis, une femme de Dieu qui met en pratique ces choses est une femme intelligente et un don de Dieu à son mari. 1 Pierre 3:5 « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. » Il dit « Regardez en arrière, regardez l'exemple des saintes femmes du passé dans l'Ancien Testament. » C'était les femmes qui comprenaient leur rôle, elles les mettaient en pratique. Et il donne un exemple, verset 6, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Alors elle n'était pas idolâtre, elle disait « Ah, tu es mon Dieu, c'est pas ça !» Mais elle voulait, elle voyait son mari comme le meneur. Elle voulait être menée pour lui, par lui, et elle se donnait à cela. Donc c'est un immense respect, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ben oui, nous sommes les fils d'Adam, Galates 3:7, car il est le père des fidèles et Sarah est la mère des femmes fidèles et soumises à leur mari. Mesdames, il n'y a aucune crainte à avoir, regardez ce qu'il dit. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur, verset 6, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Si vous faites ce que le Seigneur demande ici, Dieu vous bénira. N'ayez aucune crainte de votre mari. Aucune crainte. Dieu vous protégera. Ce qu'il dit, il vous protégera. Alors, mais John, si mon mari est brutal avec moi, s'il me bat, ça c'est autre chose. L'autodéfense est tout à fait justifiée. De quitter pendant un temps pour être protégé, ça c'est autre chose. Ça ne justifie pas le divorce, je pense, bibliquement. Mais bien sûr, de vous éloigner d'une situation dangereuse. Un mari alcoolique peut-être, ou qui prend des drogues, ou qui est violent, bien sûr. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est simplement un mari qui n'obéit pas au Seigneur. Il faut faire ce que le Seigneur dit. Quatrième texte, Tite 2. Ça devient de plus en plus radical, d'accord? Tite 2. Ça va? Vous me suivez? On va prendre quelques minutes encore. Tite 2. Vous savez ce que j'aime, hein? Je le dis presque chaque dimanche. La Bible, c'est tellement clair. C'est tellement clair. Au moins, c'est clair. Alors, peut-être que tout le monde n'aime pas, mais au moins, c'est clair. C'est vraiment génial. Regardez ce qu'il dit. Tite 2, verset 3. Alors voici, si vous êtes une femme âgée, regardez votre rôle. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni être médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Alors le rôle des femmes âgées dans l'Église, mes amis, il est clair et net, c'est que vous soyez un modèle et que vous enseignez aux jeunes femmes les choses suivantes. Ça c'est votre rôle, d'accord? Ce serait l'idéal, vraiment, de pouvoir organiser pour que les femmes âgées, qui ont toute l'expérience de la vie, puissent enseigner aux jeunes femmes comment faire. Alors, qu'est-ce qu'elles doivent apprendre, les jeunes femmes? Verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, 1, à aimer leur mari. C'est intéressant. C'est le mot ici, philéo, pas agapé. L'homme, Éphésiens 5, 25, doit agaper, donc aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ici, elle est appelée à aimer son mari philéo. Il y a une réciprocité. Et elle doit apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Alors écoutez, ça c'est très intéressant parce que messieurs, ça veut dire que parfois, il faut dire que nous sommes pas faciles à aimer. Parfois, nos femmes sont justifiées dans leur frustration avec leur mari. C'est pour ça qu'il a dit qu'elles doivent apprendre à aimer leur mari. Ça s'apprend, c'est pas toujours facile. Les maris peuvent être grognons, colériques, égoïstes, exigeants, difficiles, orgueilleux, ingrats et durs. Amen. Oui, c'est vrai, nous pouvons l'être, messieurs. Et donc, les femmes doivent apprendre à aimer. Et ça, c'est intéressant, le mot aimer philéo, philandros en grec, c'est le mot qui dit chérir un ami. C'est une idée de tendresse. La femme est appelée à chérir son mari avec une tendresse manifestée envers lui, en fait, elle va considérer son mari son meilleur ami. Son meilleur ami. Et ça, c'est le but ultime. Que ton mari soit ton meilleur ami dans ta vie. Mais alors, comment faire pratiquement? Il y a une dame qui s'appelle Martha Peace, qui a écrit plusieurs livres très intéressants sur tout le rôle de la femme. Elle suggère des choses concrètes qui peuvent aider les femmes à mieux aimer leur mari. Je vous donne la liste, c'est intéressant, c'est très pratique. Premièrement, mesdames, encouragez votre mari et dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous l'aimez, il a besoin de l'entendre. Affirmez-le lorsqu'il passe le temps avec les enfants. Dites-lui qu'il est un bon papa, même s'il n'est pas parfait. Offrez de prendre un babysitter ou aller manger au restaurant, initié par vous. Affirmez son travail et dites-lui combien vous appréciez ce qu'il fait pour pourvoir à la famille, même si les fins de mois sont difficiles. Affirmez-le lorsqu'il bricole dans la maison et dans l'appartement. Affirmez-le lorsqu'il a une semaine difficile. Réconfortez-le, compatissez avec lui. Tenez-lui la main, tout simplement. Asseyez-vous à côté de lui sur le canapé. Surprenez-le avec un week-end surprise à deux. Exprimez-lui combien vous êtes heureuse qu'il est dans votre vie. Faites tout dans votre possible pour devenir la meilleure amie, le meilleur ami de votre mari. Donc voilà comment la femme doit aimer son mari. Et regardez ce qu'elle dit dans Tite encore. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. C'est vrai que le rôle de la femme s'étend aux enfants également. Elles doivent apprendre à aimer leurs enfants. Et de nouveau, les enfants ne sont pas toujours aimables. Ils sont parfois difficiles à aimer. Et nous parlerons plus de ça lorsque nous arrivons au chapitre 6 et verset 4. Mais j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où il y a plus en plus de femmes qui donnent l'impression de pas trop aimer leurs enfants. Les enfants deviennent un gêne, frustration. Faut les caser de plus en plus. Faut les caser. Pour que je puisse m'épanouir personnellement. C'est une triste tendance, une triste réalité de nos jours. Donc les jeunes femmes doivent apprendre à aimer leur mari, leurs enfants, être retenues, douces donc, à être chastes, à être saintes. Et voici encore un autre mot intéressant qui fait un petit peu hérisser les poils. Occupées aux soins domestiques. Waouh ! Quel honneur, j'ai envie de dire. Quel honneur ! Regardez, le mot en grec « oikoron » vient de « maison » et « gardien ».« Oiko » maison, « ouros » gardien. Littéralement, c'est la gardienne de la maison. Elle prend soin de la maison, qui implique forcément prendre soin de tout ce qui fait tourner une maison. Et de nouveau, dans notre époque, c'est triste, mais c'est considéré un travail pas ignoble, moindre, méprisable. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est tout à fait honorant, c'est du travail de faire tourner une maison. Un grand travail. Moi j'aime bien quand il faut qu'on signe notre nom, Meg et moi. Votre métier, moi je dis pasteur. Puis elle, moi je dis, mais en grosses lettres, femme au foyer, ouais! Ouais, femme au foyer, c'est super, c'est honorant, c'est génial. C'est un beau travail, c'est biblique. En plus, apprendre à être bonne et à être soumise à leur mari. Et regardez la fin de ce verset 5, « Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Écoutez, mes amis, tout dépend de notre perspective de la parole de Dieu. C'est simple. Voici ce que Dieu veut pour vous, mesdames. Alors, vous avez deux options. Vous pouvez dire, bon, « Je ne veux pas obéir à ses prescriptions. » Ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Vous venez de blasphémer la parole de Dieu. Ce qu'il dit. Bon, je crois que c'est biblique, mais j'ai pas envie. Tu viens de blasphémer aussi la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est fort, c'est très fort. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. La manière de ne pas blasphémer la parole de Dieu, c'est de la mettre en pratique. Donc, à aimer ton mari, tes enfants, à être retenue, chaste, occupée aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alors, voici la question. Une femme devrait-elle, oui ou non, travailler hors du foyer? Je l'ai posé. Comment vais-je répondre? La Bible ne dit rien sur ce sujet. Rien. Je crois que ça suscite une série de questions, par contre. Peut-elle travailler hors de la maison et mettre en pratique les prescriptions la concernant? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'elle peut garder ses priorités en ligne? Si elle travaille hors de la maison, son mari est-elle réellement la priorité de sa vie? Peut-elle réellement le servir et pourvoir à ses besoins comme elle doit le faire? Peut-elle réellement aimer ses enfants comme elle devrait le faire? Peut-elle travailler 8 à 10 heures par jour, mettre ses enfants dans une garderie toute la journée, surtout lorsqu'ils sont petits, et mettre en pratique ces injonctions. C'est une question importante. Proverbe 31. Vous avez encore 5 minutes ? Proverbe 31. On fait qu'effleurer les sujets. Proverbe 31. Écoutez, là, c'est une section des Écritures absolument fabuleuse encore. À partir du verset 10, Proverbe 31 décrit la femme vertueuse. Et ce qui est intéressant à souligner, je crois qu'il faut le souligner, c'est que ce portrait date de 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc il date de 3000 ans en arrière. Donc c'est vieux. Alors on se pose la question, comment la femme vertueuse était-elle à l'époque ? Alors c'est intéressant aussi que c'est Salomon qui a écrit ces versets après un grand échec. 500 femmes, 300 concubines. Et il s'est complètement planté, il a reconnu cela à la fin de sa vie. Et il a écrit un livre, Cantique des Cantiques, pour montrer l'importance d'un homme et une femme. Donc il écrit Cantique des Cantiques comme testament. Voici mes amis ce qu'il ne faut pas faire, mais voici ce qu'il faut faire. Regardez ce qu'on apprend de cette femme. Des traits marquants de cette femme. Un, une femme de valeur. Verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur qu'une perle, ou que les perles, au pluriel. Mes amis, une femme vertueuse est une chose rare à trouver. Très, très rare. Et à l'époque, les perles faisaient partie de ce qu'il y avait de plus précieux. Il dit, mais écoutez, une femme vertueuse est mieux que tout l'argent du monde. Et combien de gens connaissons-nous qui ont réussi à se faire des masses d'argent, mais alors, au niveau de vie privée, tout est gâché. Il dit, mais écoutez, la vie privée est bien plus importante que toute la richesse au monde, mes amis. Et c'est la société qui nous dit le contraire. Non, l'important, c'est de pourvoir à tes besoins et te préparer pour l'avenir. Mais non. Bien sûr, il faut être sage. Alors, j'aime ce verset parce que le nom Margaret, Meg, c'est perle. Ça veut dire perle. C'est beau, non? Vous ne trouvez pas? Dieu m'a vraiment donné une perle et ça, je remercie le Seigneur, quoi. Deuxièmement, c'est une femme de confiance. Verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Waouh ! Pourquoi le cœur de son mari a-t-il confiance en elle ? Parce que cette femme lui est totalement fidèle. Il n'y a aucun doute par rapport à cela. Mes amis, la confiance réciproque dans un mariage, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ne faites jamais rien, mesdames ni messieurs, pour apporter à votre mariage le doute vis-à-vis de la confiance. C'est terrible. Mais lorsque la confiance existe, trois. Elle est une femme de gentillesse. Verset 12, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Waouh. Écoutez, ça c'est le rêve de chaque homme. Point à la ligne. Sur la planète, d'avoir une épouse vertueuse qui lui fasse du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Messieurs, je parie que c'est le rêve de votre vie. Mais oui, c'est l'amour agapé et philéo. Elle décide de servir son mari, de lui être une aide, de lui faire du bien tous les jours de sa vie, qui montre aussi que le mariage est pour la vie. Alors la question qu'une femme devrait se poser, c'est celle-ci. Comment puis-je faire du bien à mon mari aujourd'hui ? Se lever chaque matin et dire, tiens, aujourd'hui, voilà, j'ai un privilège, j'ai l'opportunité de faire du bien à mon mari. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Et demain ? Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Le lendemain ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 60 ans ? Comment puis-je faire du bien à mon mari aujourd'hui ? Écoutez, si vous faites ça, votre mari sera hyper heureux. Et le retour vis-à-vis de vous sera extraordinaire. 13. Une femme de travail, regardez. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Oui, elle pourvoit pour sa famille, notez bien, elle est commerçante. Oui, elle a de l'argent, son mari lui a apparemment donné de l'argent. Elle sait trouver des bonnes affaires. Elle sait où aller chercher ce dont elle a besoin pour pouvoir à sa famille, vêtements dans ce cas-ci. Au verset 19, elle met la main à la quenouille et le doigt tienne le fuseau. Elle fabrique des vêtements elle-même. Elle n'est pas paresseuse, mais elle est bosseuse. Elle fait tourner sa maison, mes amis. Elle se lève tôt. Elle sacrifie du sommeil. Regardez, c'est une femme de sacrifice, verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle n'est pas pauvre en plus, cette dame. Regardez, elle a des servantes, c'est intéressant. La richesse n'est jamais condamnée en elle-même. C'est toute une question de priorité. 6. Elle est une femme de commerce. Verset 16. Elle pense un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Et verset 24 encore, elle fait des chemises, elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Oui, oui, ses réserves d'argent que son mari lui a probablement remis, eh bien elle en a fait un petit commerce. Elle spécule sur un terrain, elle l'achète avec ce profit. Elle plante une vigne, verset 16. Elle a même des muscles, on lui dit. Elle est heureuse de ce qu'elle gagne. C'est une femme qui sait travailler, mais jamais au détriment de sa famille. Jamais au détriment de sa famille. C'est ça la clé ici. Une femme de compassion, verset 20. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle a un côté très généreux. Elle aide ceux qui sont dans le besoin, avec bien sûr ce qu'elle a gagné en plus. En plus, et ça j'aime bien verset 21, c'est une femme classe. Regardez verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de croix moisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Le croix moisie est une référence à une couleur rouge foncé, qui était souvent la couleur préférée des vêtements de qualité. Elle s'habille de fin lin et de pourpre, un colorant rouge vif extrait de mollusque, qui était de nouveau un symbole de richesse. Cette femme, mes amis, elle est classe. Et n'hésite pas, avec le revenu qu'elle a, de se procurer des choses de qualité pour sa famille. La femme de Proverbe 31 est équilibrée, tout à fait équilibrée. 10, elle est une femme d'honneur, verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Écoutez, cette femme est la couronne de son mari. Cette femme, en fait, est l'élément qui honore son propre mari. La ville connaît l'homme et connaît sa femme, et cette femme élève l'honneur de son mari. C'est comme si les gens disent, hey, « Hé, toi Jacob, toi t'es ok, mais ta femme, elle, waouh, c'est une femme exceptionnelle. » Et son honneur vient du fait que sa femme est exceptionnelle. Et cet honneur va jusqu'aux anciens de la vie. Les gens connaissent l'homme pour sa femme. C'est ça qui est génial. Verset 11, elle est une femme de confiance. Verset 25, elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle aime le Seigneur et ne s'inquiète pas pour l'avenir. 12, elle est une femme de sagesse, verset 26, elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. Messieurs, lorsque vous devez prendre une décision, n'oubliez pas de consulter votre femme, parce que votre femme est probablement dotée de beaucoup de sagesse. Donc écoutez-la, elle a des super choses à dire. Une femme vertueuse ouvre sa bouche avec sagesse et ses instructions sont aimables. Et regardez la récompense d'une telle femme. La récompense, regardez, verset 28. Merveilleux. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Et son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Quelle est sa récompense? Elle est louée par ses enfants. Ses enfants voient une maman épanouie et heureuse. Elle est louée par son mari. T'es la meilleure. Elle est louée par le Seigneur. Et elle est même louée par les gens de l'extérieur. Regardez, la grâce, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Elle est louée à droite et à gauche. Mes amis, une telle femme est plus difficile à trouver que les perles. Mais moi, je crois que nous avons une église remplie de femmes vertueuses. Parce que vous connaissez le plan de Dieu. Maintenant, c'est une question d'appliquer. Le résultat, regardez, dernier verset, vraiment 30 secondes, là, vraiment. Cantique des cantiques, regardez. Le résultat, voici ce que je crois chaque homme et chaque femme aimerait. Votre mari va vous louer, mesdames. Regardez comment il va vous louer. Vraiment vous louer. Chapitre 4, verset 1. Que tu es belle, mon ami. Ça, c'est votre mari hein, qui réagit maintenant. À la femme vertueuse que vous êtes. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Ah, c'est beau, vous ne savez pas? Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de la montagne de Galade. Ah, chérie, quel mot beau tu choisis pour me décrire. Alors bien sûr, c'est la poésie à l'époque, nous on va utiliser d'autres termes, mais regardez comme il la loue. Regardez les dents, hein, elle a des super belles dents, hein, cette femme. Tes dents, verset 2, sont comme des troupeaux de brebis tondus. Ah. Alors là, votre femme, elle est en train de fondre devant vous. Ah, chérie, mais tu as le tact. Tu sais comment me décrire des choses belles. Qui remontent de l'abreuvoir, bien sûr, tes dents. Hein. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil de croix moisie. Ça, c'est pas mal, par contre. Ouais, ouais. Et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade. Alors, pas une grenade Deuxième Guerre mondiale, d'accord? C'est le fruit, d'accord? On est d'accord. Ton cou est comme la tour de David bâtie pour être un arsenal, etc., etc. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est comme, mesdames, vraiment, vous avez un rôle capital à jouer dans votre couple. Vous mettez ces choses en pratique. Vous aimez votre mari, vous l'honorez, vous le respectez, vous vous soumettez à lui. Écoutez, il va pleuvoir l'amour sur vous et la louange. Vraiment. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. C'est beau, non? Vous trouvez pas là, la Bible? Ouais. Messieurs, où est-ce que vous serez dimanche prochain à 10h30? Alors, Walter, t'as pris note de tous les messieurs qui sont là ce matin, n'est-ce pas? On va venir vous chercher, hein, messieurs. Non, non, je blague, bien sûr. Mais vraiment, je pense que ce serait le plus grand honneur à votre épouse si vous pouvez vous libérer de venir pour que vous soyez là et que ça va créer une discussion entre vous. Vous savez, pourquoi pas, une fois avoir entendu cette série, vous voir les deux et vous dire, tu sais, chérie, moi, je vois, j'ai pas été à la hauteur de ce que j'aurais dû être et j'aimerais te demander pardon et j'aimerais vraiment tout faire pour essayer d'être mieux comme je devrais l'être pour une femme et aussi pour un mari. C'est des occasions privilégiées, vraiment, pour pouvoir régler le mariage et que nous soyons vraiment des couples révolutionnaires. C'est ce que vous voulez, j'espère, de tout cœur. Et j'espère que ça ne vous frustre pas si vous êtes ici et vous êtes célibataire. J'espère que ça vous donne envie de comprendre quel est le plan pour Dieu pour vous. Et si un jour Dieu vous donne la grâce de vous marier, vous serez tellement en avance. Donc j'espère que ce n'est vraiment pas un sujet de frustration, mais de bénédiction. Seigneur, merci de tout cœur. Merci pour ces choses. Nous t'aimons au nom de Jésus-Christ.